À ouvrir vos Bibles dans Jérémie, le prophète Jérémie, et on va lire au chapitre 31 quelques versets. Donc Jérémie, chapitre 31, on va lire les versets 31 à 34. On a de la chance avec Jérémie, c'est un prophète de l'Ancien Testament, mais il est assez long. Donc 52 chapitres si je me rappelle bien. On a un peu plus de chance de le trouver que Jonas ou Abdias ou d'autres comme cela. Donc Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34. Et on trouve dans ce passage en fait la promesse que Dieu fait. On est à peu près au 6e siècle avant Jésus-Christ, la promesse d'une nouvelle alliance qui ne sera pas comme l'ancienne, qui sera beaucoup plus performante, plus efficace, qui est celle dont nous avons vraiment besoin. Et c'est ce que je vous invite à lire alors avec moi. Jérémie 31, verset 31. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux », déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel. Celui qui a donné le ciel comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. » C'était assez sympa de la part de Jean de dire on va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu au travers du message préparé par Marc-Étienne, par moi. Mais c'est assez terrifiant, en fait, d'imaginer que celui qui parle, vous avez vu à combien de fois ça revient ici dans ce passage, voici celui qui parle, l'Éternel, le maître de l'univers, celui qui préside au fonctionnement de tout l'univers, c'est lui qui parle et c'est lui qui fait cette promesse. Alors avant d'aller un peu plus loin, je vous invite juste à prier pour moi et avec moi, que Dieu parle justement ce matin. Aussi à nos cœurs. Seigneur, ta parole est bonne, ta parole est claire, ta parole est puissante, et moi, je suis faible, et nous sommes faibles pour aussi l'entendre et la comprendre. Mais Seigneur, tu viens à notre secours par ton Esprit Saint et nous te prions que tu ouvres nos cœurs, nos oreilles, notre compréhension, notre intelligence, comme tu l'as promis, Seigneur, pour que nous puissions comprendre toutes ces paroles, que nous puissions nous réjouir de te connaître, que nous puissions saisir toutes les promesses qui sont dans ce passage-là pour nous-mêmes. Aide-moi, s'il te plaît, à parler fidèlement de ta part, maintenant. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Jérémie, c'est pas le seul à parler de la part de l'Éternel. Toute notre Bible est inspirée par Dieu lui-même. Et si les prophètes ou les auteurs bibliques ont écrit ce qu'ils ont écrit, c'est porté par l'Esprit Saint qu'ils l'ont fait. Et il n'y a pas d'interprétation qu'on puisse avoir qui vient de simplement l'intelligence humaine. C'est Dieu lui-même aussi qui nous donne de comprendre. Et donc, je voudrais commencer, en fait, maintenant, en repassant avec vous un petit peu de l'histoire du peuple d'Israël, du peuple choisi par Dieu, du peuple que Dieu a fait sortir d'Égypte. Vous vous rappelez cela? On lit cela dans le verset 32, « Le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. » Et si vous avez juste quelques idées, quelques notions de ce que la Bible dit, au moins vous savez qu'il y avait Moïse, au moins vous savez que les Israélites ont dû mettre du sang d'un agneau sur le porte, sur leur porte pour être pas atteints par la mort qui était en train de sévir parmi tous les idolâtres en Égypte. Et puis aussi, vous savez comment la mer s'est ouverte de façon tout à fait miraculeuse pour laisser passer à pied sec, s'il vous plaît, tout un peuple. Et puis, miraculeusement aussi, cette mer s'est refermée sur les ennemis, de sorte que, voilà, c'est sûr et certain, ils pouvaient être libres et sans crainte de servir Dieu. Il faut qu'on connaisse cette histoire, parce que quand on connaît cette histoire, on découvre qui est Dieu. Et on voit sa puissance, on voit sa bonté, on voit sa persistance, sa persévérance à vouloir faire du bien à son peuple. On le découvre dans toutes ses dimensions. Et j'aimerais que vous encouragiez ce matin à ne pas rester cantonné avec les évangiles, à ne pas rester cantonné simplement avec les épîtres, même si c'est magnifique tout ce qu'on lit là-dedans, mais aussi de vous engager dans toute l'histoire de la Bible, d'aller dans Genèse, d'aller dans les petits prophètes, les 12 là, et d'essayer de comprendre qui est Dieu. Et en même temps, de comprendre qui est Dieu, de voir que le cœur humain reste toujours, malheureusement, marqué par le péché. L'histoire nous enseigne, elle nous enseigne à voir Dieu tel qu'il est vraiment, celui qui est l'autorité suprême sur tout ce qui existe. Et du coup, en contraste, notre besoin immense de lui. Il est le roi, lui, souverain, exalté au plus haut des cieux. Mais pas simplement loin de nous, c'est aussi le roi, le souverain de la terre et des hommes. Dieu ne s'est pas retiré de la création, il est un Dieu relationnel, il est un Dieu bon et juste, et c'est là le problème, justement. Parce que nous ne le sommes pas. Et pourtant, nous avons désespérément besoin d'être en relation avec lui. Depuis que nous avons quitté le jardin d'Éden à la suite de nos ancêtres, c'est notre problème. Alors, on lit dans l'histoire comment Dieu, de façon persistante, persévérante, fait du bien à son peuple, décide de sauver des gens ordinaires, des gens comme vous, comme moi. Abraham, qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il était aussi marqué par le péché, tout comme vous, tout comme moi. Le peuple d'Israël était tout comme vous, tout comme moi, marqué par le péché. Mais Dieu fait des promesses, Dieu conduit son peuple hors de l'Égypte, à travers 40 ans dans le désert, il les amène avec Josué dans la terre promise, il leur donne un roi bon selon son cœur, David, et on lit toute l'histoire biblique, et vous vous souvenez, si vous avez suivi avec moi ces 5 dernières années, si vous étiez présent dans l'église, tout cet apogée qui culmine au moment de David et de Salomon, le règne de David qui est bon, le développement de Jérusalem comme capitale, la construction du temple sous Salomon, les frontières qui sont les plus étendues qu'on puisse avoir. Tout ça dans un contexte de paix. Et Israël qui rayonne de la sagesse et de la bonté de Dieu tout autour parmi les nations. Mais vous vous rappelez aussi, on avait vu ça dans 1 Roi, au chapitre 11, la fin de Salomon, qui finit par se détourner de son Dieu. Par amour pour de trop nombreuses femmes étrangères, qui l'entraîne à se détourner de Dieu et adorer des idoles. Et toute la suite de l'histoire des rois et des royaumes au nord comme au sud, dans le territoire d'Israël. Donc, si vous vous rappelez, après, le royaume du nord prend le nom d'Israël et le royaume du sud prend le nom de Juda. Et on avait vu ça, que ce n'était pas juste le problème d'un homme comme Salomon, mais Jéroboam, il institue, il banalise cette adoration des idoles, ce culte païen, dans tout le territoire, dans tout son territoire. Il installe un veau d'or. On doit faire ding, ding, ding. Attention, là, j'ai déjà entendu ça quelque part. Au mont Sinaï, là, ils ont aussi fait un veau d'or, alors qu'il y avait Dieu qui était en train de faire trembler la montagne. Et eux, ils voyaient ça et pourtant, ils se sont détournés de lui. Et Jéroboam institue ce culte-là dans tout Israël, au nord à Dan et au sud à Bethel. Et on avait vu la sévérité alors de Dieu qui envoie un prophète pour dénoncer cela. Et l'autel qui se brise, vous vous rappelez de tout ça? Et en même temps, on avait vu que bien que ce soit sévère, il fallait que ce soit sévère, Dieu est juste, il ne va pas tolérer qu'on méprise son nom. En même temps, c'était une grâce. C'est Dieu qui montre qui il est et du coup il appelle à revenir à lui. Ça, c'est une grâce. Mais le roi Jéroboam et le peuple n'ont pas écouté. Ni les rois qui ont suivi et qui se sont succédés après lui. Et quand on continue de lire dans les rois, on voit que c'est la dégringolade. Et au nord, on touche le fond pour la première fois avec Akab et Jézabel. Et c'était terrible. En même temps, on avait vu, si vous vous souvenez, comment Dieu continue de se manifester, qu'il est le vrai Dieu. Comment Dieu, même si des fois c'est sévère, il continue d'appeler à la repentance, à revenir à lui. On avait vu comment Dieu, malgré tout, préserve, quand plein d'autres se détournent de lui, il préserve ses serviteurs, comme Élie et comme les 7000 autres qui ne se sont pas prosternés devant Baal. On avait vu aussi en tant que croyants, à l'exemple d'Élie, dans une situation si troublée, comment nous étions appelés à cultiver notre relation avec Dieu dans la prière. Et Dieu s'intéresse non seulement aux gens de son peuple, mais on l'avait déjà vu avec Élie et la veuve de Sarepta, mais encore avec Élisée, c'est ouvert aussi aux nations, puisque finalement Israël est comme toutes les autres nations, elle s'est détournée tout autant que les autres de Dieu. Le salut, donc, ne dépend pas de faire partie de l'ethnie Israël, d'être dans la nation Israël. C'est autre chose qu'il faut, c'est la foi, la même foi qui sauve Naaman, un étranger à toutes les promesses, mais qui a mis sa foi, sa confiance dans le Dieu, vrai et véritable Dieu de la Bible. C'était là où on était arrivé, puis quelques temps après, on découvre, il y a un Jéroboam 2. C'est comme dans les films, hein, le retour, Jéroboam 2, la suite. Et en fait, les suites sont généralement pas meilleures que les premiers films. Souvent, les deuxièmes, c'est moins bon. Tout est déjà vu, c'est un peu, on essaie de faire un peu du commerce en plus, hein, sur une bonne idée de départ. Là, c'est du commerce en plus sur une mauvaise idée de départ. Jéroboam 2, il continue dans la même veine que son ancêtre. Et c'est le retour, mais rien ne change. Et même dans cette période-là, les rois du sud, les descendants de David, on va dire plus légitimes dans un sens, sont aussi tentés par le mélange, par l'unité avec le royaume du nord, au mépris de la vérité. Juste pour parcourir très rapidement, vous entendez parler de Athalie dans cette histoire-là, et il s'en est fallu d'un cheveu dans le royaume du sud pour que tout s'écroule aussi. Mais Dieu, de nouveau, préserve la descendance de David avec Joas. Alors, dans le royaume du Nord, c'est la dégringolade. Dans le royaume du Sud, ça vivote plus ou moins. Il y a des temps de réforme, de retour à l'Éternel, en particulier sous le règne d'Ézéchias ou de Josias, le dernier grand roi de Juda. Vous savez, c'est celui qui retrouve le livre, la Bible, en fait, de la loi dans le temple. On avait fermé le temple, plus personne n'utilisait le temple de Dieu. Puis quand lui, il arrive, il dit non, mais ils rouvrent le temple, ils font du ménage, ils retrouvent la Bible, ils se remettent à lire, ils disent, oh, on est complètement sur la mauvaise voie, il faut revenir. Et Josias fait cela. Il détruit les veaux à Bethel et les horreurs mises en place par Salomon. Alors, il accomplit finalement la prophétie qu'on avait lue en 1 roi 13. Et ça, cet accomplissement-là, vous pouvez le lire en 2 Rois, chapitre 23. Mais entre Ézéchias et Josias, il y a Manassé, un roi entre les deux qui a été terrible et qui scelle le destin du royaume du sud. Le royaume du nord est déjà parti en exil avec les Assyriens, mais bientôt ça va être les Babyloniens qui vont arriver dans le royaume du sud et qui vont emmener en exil comme jugement de Dieu tous les habitants de Jérusalem et de la région. Alors, l'histoire nous enseigne que le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur du problème, ce qui est au centre de toute cette histoire, c'est le problème du cœur humain, de votre cœur, de mon cœur, de notre cœur à tous, de tous les hommes, toutes les femmes. Et selon ce que Dieu avait passé comme contrat, si vous voulez, avec son peuple au Sinaï, il a accompli son jugement, parce que son peuple n'a pas respecté sa part dans l'accord du Sinaï. Dieu n'a pas été plus sévère qu'il n'était nécessaire. Il a été entièrement juste quand il a envoyé la sécheresse. Vous vous rappelez, Élie ? C'était un premier signe pour montrer son mécontentement, pour dire encore au peuple de Dieu, c'est le moment de revenir. Attention, on a passé un cran. Puis il a envoyé des maladies, etc., etc. Et finalement, ultimement, c'est l'exil qui est prévu. On peut lire ça dans Jérémie, au chapitre 7. Jérémie reçoit une parole de l'Éternel qui dit, voilà, les Babyloniens vont venir. Ne comptez pas sur un rebondissement de l'histoire et tout ira bien. Non, non, ça y est, c'est fini. Trop, c'est trop. Ça suffit. Ce que j'ai dit que j'allais faire, je vais le faire. Et Dieu annonce par Jérémie à tout le peuple de Jérusalem et de Juda que les Babyloniens arrivent et ils vont emmener le peuple en déportation. C'est sévère. Mais écoutez encore, parce que Dieu dit ça va durer un temps. 70 ans, c'est pas rien. 70 ans, c'est toute une vie. Il y en a peut-être qui vont vivre sans jamais pouvoir revenir dans la terre promise. Il y en a peut-être qui vont naître et mourir sans avoir jamais vu la terre promise. 70 ans, c'est pas rien. Mais ça veut dire qu'il y a un commencement et il y a une fin. Est-ce que vous comprenez encore comment Dieu est sévère et juste et en même temps prêt à revenir, prêt à sauver, prêt à montrer sa compassion? La colère de Dieu est fondée. J'aimerais vraiment vous convaincre de ça. Elle est en accord avec la justice. Dieu ne dépasse pas les bornes. C'est correct ce qu'il fait. Objectivement, c'est correct quand il se fâche contre des peuples qui sont pécheurs, contre des hommes, des femmes qui se rebellent contre lui. Et Jérémie doit combattre à son époque tout un tas d'autres soi-disant prophètes qui disent « Oh, vous inquiétez pas, tout ira bien. Tout ira bien, tout ira bien. Dieu est Dieu, Dieu est bon, Dieu, il est avec nous, il a dit qu'il sera avec nous, donc peu importe comment on vit, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on dit, tout ira bien. » Mais ce n'est pas cette voie-là qu'il faut emprunter. Ce n'est pas fermer les yeux sur notre propre problème, ce n'est pas fermer les yeux sur la justice de Dieu qui nous amène à être vraiment libérés, à une vraie certitude pour le pardon de nos péchés. Ce qu'il nous faut, c'est un appel à la repentance. Est-ce que vous entendez cela aussi chez Jérémie ? Jérémie n'arrête pas de dire « Arrêtez d'espérer dans votre naissance. » Ce n'est pas parce que vous êtes israélite. Et on pourrait facilement transposer ça à notre époque, à nous. C'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que. C'est pas parce que tu fréquentes l'église le dimanche que. Espérer dans ces aspects extérieurs ne règle pas le fond du problème. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. C'est pas ce que tu fais dans ta vie. Ce que tu fais dans ta vie rejaillit de l'intérieur. Et on peut masquer certaines choses, mais au fond, si le problème n'est pas réglé, si c'est pourri à l'intérieur, il y a quand même un problème. Israël, les Juifs à l'époque de Jérémie, ils espéraient dans leur histoire le fait d'avoir comme ancêtre Abraham, d'avoir eu Moïse comme leur prophète, d'avoir été circoncis pour les garçons. Ça leur faisait croire que tout était bon. Ils espéraient aussi, à l'époque de Jérémie, dans des fausses alliances. Oui, c'est vrai, il y a les Babyloniens qui arrivent, mais on va se tourner vers l'Égypte, on va faire appel à l'Égypte politiquement. Eux, ils ont des chars, ils ont une grosse armée, on n'a qu'à faire ami-ami avec eux, et ils vont venir nous défendre. Et voyez ce qu'ils sont en train de faire. Dieu dit, je vous juge en envoyant les Babyloniens. Et eux refusent quelque part ce jugement. Non, non, on va s'en sortir nous-mêmes. Merci Dieu, t'es bien gentil. Mais on va aller chercher des appuis ailleurs qu'en toi. Ils ne disent pas, Seigneur, aie pitié, épargne-nous ce jugement. Ça aurait été une possibilité. Il pourrait dire aussi, Seigneur, on reconnaît que tu es juste quand tu fais ça, et aide-nous à passer au travers de ce jugement, et apprends-nous au travers de ce jugement comment nous pouvons te servir. Il pourrait dire ça. Mais le discours à l'époque de Jérémie, c'est « Allons chercher des armes en Égypte et combattons les Babyloniens. » Et tu t'iras bien. À l'époque de Jérémie, le peuple espère dans des formes extérieures de piété, dans des objets de culte. On lit dans Jérémie 7, je lis pour vous, verset 4, Jérémie qui parle à son peuple et qui dit « Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui prétendent « C'est ici qu'est le temple de l'Éternel. » Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Donc il y avait des personnes qui étaient là dans Jérusalem qui disaient « Mais comment Dieu pourrait détruire Jérusalem alors qu'il a mis son temple ? Regardez ce bel édifice, regardez ces pierres, regardez ces grands, c'est grandiose. » Mais Dieu est prêt à faire ça. Et écoutez ce qu'il dit encore, verset 5. « Si vraiment vous corrigez votre conduite et votre manière d'agir, si vraiment vous faites justice aux uns et aux autres, si vous n'exploitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne versez pas le sang innocent dans cet endroit, si vous ne vous tournez pas vers d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai habiter ici, dans ce pays que j'ai donné à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Mais voici que vous, vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne servent à rien. Quoi ? Vous vous permettez de voler, de tuer, de commettre des adultères, de prêter serment de façon hypocrite, de faire brûler de l'encens en l'honneur de Baal, de suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas ? Puis vous venez vous présenter devant moi, dans ce temple auquel mon nom est associé, et vous dites « Nous avons été délivrés !» Et c'est pour commettre toutes ces horreurs ? Est-il à vos yeux une caverne de voleurs, ce temple auquel mon nom est associé ? Et Jérémie dit « Non, 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 pas parce qu'il y a le temple que vous êtes sauvés. Parce que si de l'intérieur, vous allez au temple, mais après, tout le reste de votre conduite ne montre pas que vous êtes en relation avec Dieu, que vous honorez ce Dieu-là que vous allez servir dans le temple, ça ne sert à rien. Et votre confiance, elle est illusoire. Est-ce que vous pensez vraiment que ce temple est une caverne de voleurs, de bandits ? Ça nous rappelle, tiens, mais Jésus, il a dit ça aussi. Il a chassé les marchands du temple qui étaient là pour des commerces. Et donc, les Juifs de l'époque de Jésus étaient au même point. Ils se disaient, ben, c'est bon, on a le temple, on fait les rituels, etc. On vend les agneaux, on les sacrifie, tout va bien. Et en réalité, ils étaient loin dans leur cœur. Ils étaient loin de Dieu. Et Dieu dit, par Jésus, je vais détruire ce temple. Et c'était double. Ce temple va être détruit. En 70 après Jésus-Christ, le temple de Jérusalem a été détruit. Il n'y a plus de temple aujourd'hui à Jérusalem. Mais en 3 jours, je le relèverai. Et en même temps qu'il parlait de... on peut comprendre ça comme une prophétie sur le temple en pierre de Jérusalem. C'est aussi pour dire, il y a un autre temple qui va être construit maintenant. Que lui-même, Jésus, va faire. Et c'est dans son propre corps. Il est en train de parler à ce moment-là de sa mort et sa résurrection à la croix. Il y a une seule voie, c'est la repentance. Il y a une seule voie, c'est de revenir à Dieu. Mais le péché est coriace. Écoutez quelques manières dont Jérémie en parle. Au chapitre 2, verset 22. Même si tu te lavais avec du nitrate, la soude, vous savez ce qu'on met dans les lavabos pour déboucher quand il y a trop de savon, enfin des saletés qui se sont mises. On met des trucs là, ça chauffe et tout pour déboucher les plomberies. Même si tu te lavais avec du nitrate, même si tu employais beaucoup de savon, ta faute resterait marquée devant moi, déclare le Seigneur l'Éternel. Comment pourrais-tu affirmer, je ne me suis pas rendu impur, je n'ai pas suivi les Baals. Regarde le chemin que tu suis dans la vallée, reconnais ce que tu as fait, chamelle légère qui parcourt ton chemin dans tous les sens. Même avec le meilleur savon, ça ne marche pas. Écoutez encore Jérémie 17, verset 1. le péché de Judas est inscrit avec un burin en fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. De la même manière que Dieu avait inscrit sa loi parfaite sur des tables en pierre pour que le peuple de Dieu la suive, mais il n'a pas suivi. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est écrit comme avec une pointe de diamant. Comprenez, c'est plus dur que le diamant, ça n'existe pas. C'est donc écrit très profondément sur la table de leur cœur, cette volonté toujours de se rebeller. Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable, inguérissable. Qui peut le connaître ? Le problème, Dieu l'y connaît. Le problème, Dieu lui voit très clairement dans notre cœur. Il sonde ce qui nous sommes, et il sait très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Encore une autre image. Le péché nous colle à la peau, dit Jérémie. Jérémie 13, 23. Un Éthiopien, un Africain si vous voulez, peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Alors si je suis blanc, est-ce que je peux décider de devenir noir? Et si quelqu'un est noir, africain, est-ce qu'il peut décider de devenir blanc? C'est pas possible. Est-ce qu'un léopard peut effacer ses taches sur son pelage? Comment faire? C'est tellement coriace, tellement dur. C'est incurable. Mais Jean nous en a parlé. Pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu. Chapitre 17, verset 14. « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es le sujet de ma louange. » Il faut une intervention extérieure. En fait, il faut même plus qu'un traitement curatif. C'est une greffe qui est nécessaire. Un de mes amis en région parisienne a un petit garçon qui n'a même pas 2 ans et on a découvert un dysfonctionnement dans ses reins. Et le temps qu'on réalise, qu'on essaie de faire des traitements, etc., ils se sont rendus compte que le rein est foutu. Les reins, en fait, les deux sont foutus. Et c'était vraiment timing serré. Et bien sûr, on cherche alors, est-ce qu'il y a un donneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner un rein en remplacement? Et dans ce cas de cet ami, il était compatible avec son enfant et il a donné une partie de en fait, c'est pas un rein, pardon, c'était le foie. Il a donné une partie de son foie pour son petit garçon. Il faut qu'un donateur, un donneur, se présente, qu'il ait compassion de nous et qu'il veuille bien donner son cœur pour que nous puissions en recevoir à nouveau. Et c'est ce que nous avons lu. Voici la promesse d'une nouvelle alliance. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël, non pas une personne, mais avec tout un peuple, avec un peuple nombreux, une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte, quand il a gravé sa loi sur des tablettes en pierre. C'était bien, c'était bon. On découvre comment vivre pour Dieu. Mais si cette loi est extérieure à nous, comment la suivre? Il faut qu'elle soit inscrite à l'intérieur. Alors lisez avec moi encore, verset 33 du chapitre 31. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Les jours viennent. » Alors quand Jérémie parle ici de la part de l'Éternel, il est en train de dire c'est sûr, d'accord, les jours viennent, il dit pas peut-être. On pourrait supposer que si peut-être Dieu est bon, éventuellement, on arrivera peut-être un jour, éventuellement. Il dit les jours viennent, c'est une déclaration de Dieu. Ces jours sont prévus. c'est ça va durer 70 ans d'exil. Mais après, au-delà de cet exil, Dieu promet un retour. Un retour, pas simplement dans la terre promise, mais un retour, parce que si c'était pour revenir et recommencer, rebelote, Jéroboam 3, Jéroboam 4, vous pouvez faire toute la série que vous voulez, c'est inutile. Et si c'est un retour avec un cœur transformé, un cœur nouveau, là c'est un vrai espoir. Là il y avait quelque chose à entendre qui va vraiment changer tout. Un nouveau cœur, voilà ce que Dieu propose, une greffe. Et lui se propose comme étant le donneur. Il va donner un cœur qui aime ce que Dieu aime, puisqu'il viendra de Dieu lui-même. Il va donner un cœur qui désire être en relation avec Dieu lui-même, puisque c'est le même qui donne et qui reçoit. Et regardez ce que Dieu dit, non seulement pour l'avenir, il y a cette possibilité de vivre pour Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait du passé, de tout ce qu'on a déjà raté, de tout ce qui est déjà foutu et capoute. Verset 34. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu non seulement promet d'avoir un changement pour l'avenir, mais il règle aussi toute la question du péché. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Mais si le cœur est changé et ce qui a déjà été mal fait est effacé, alors il y a une vraie assurance, il y a une vraie libération. Et Dieu dit, je serai, moi, leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 33, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. La relation alors avec Dieu peut être véritablement restaurée. On peut vivre en lien avec ce Dieu saint, juste et bon, sans plus aucune crainte. Un petit peu plus loin, au chapitre 33, Jérémie nous dit que ça va passer par un descendant de David. La réalisation de cette promesse passera par un descendant de David, chapitre 33, verset 14. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. » Voici comment on l'appellera, l'Éternel, notre justice. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Et de nouveau, on continue de nous laisser enseigner par l'histoire et on voit après l'exil, est-ce que c'est vraiment là ces jours dont Jérémie parle ? Pas tout à fait. C'est vrai, Jérusalem est reconstruite. Vous pouvez lire ça dans Néhémie. C'est vrai, le culte au temple est rétabli. Lisez ça dans Esdras. C'est vrai, il y a un descendant de David. Vous voyez Zorobabel qui est mentionné dans Agé, etc. Et Shealtiel et d'autres comme ça. Mais le vrai fils de David, n'est-ce pas? Vous le savez, c'est Jésus. Et c'est par lui que cette bonne parole que Dieu a prononcé à l'intention de son peuple est réalisé. Un reste de Juda revenu d'exil, un reste d'Israël revenu d'exil, et aussi un reste des ressortissants des nations qui ont mis leur foi dans l'Éternel, notre justice. Si nous lisons dans Jérémie, 6 siècles avant Jésus-Christ, l'histoire, le récit, le rapport d'une promesse. Nous avons maintenant bien plus que tous ceux qui entendaient Jérémie. Parce que la promesse, c'est comme un contrat d'embauche, hein. avant que vous fassiez votre premier jour, vous avez normalement reçu le contrat, peut-être un jour avant, et on vous laisse le lire. Et vous pouvez regarder normalement, en tout cas ça devrait être comme ça. Et vous pouvez dire, là je suis pas, enfin je voudrais discuter ce point, ma rémunération, etc. Ok, donc c'est préparé. Alors vous pouvez avoir le contrat, il est tout prêt et ficelé, mais si c'est pas signé, ça n'a aucune valeur. Alors pour Jérémie, ils avaient le contrat, ils pouvaient le lire. Mais pour nous, nous avons le contrat signé maintenant, ratifié, scellé par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix. C'est comme ça que Dieu a signé le contrat. C'est comme ça que Dieu a dit, la promesse que je vous avais faite, elle va se réaliser. Et non seulement c'est scellé par le sang de Christ à la croix, mais aussi nous en avons une assurance, une garantie, en ayant reçu l'Esprit Saint. Ce que Dieu a promis, le changement du cœur est déjà en route quand nous recevons l'Esprit Saint qui travaille dans notre vie, qui nous fait de plus en plus désirer ce que Dieu désire, qui nous fait de plus en plus aimer ce que Dieu aime et de plus en plus détester ce que Dieu déteste. La grève du cœur est en train de prendre grâce à Dieu. Alors laissez-moi terminer avec quelques petites idées. Je ne sais pas où les uns les autres se situent ce matin. Certains ont besoin d'entendre. Approche-toi de Dieu. Ne cherche pas ton assurance ailleurs. Ne pense pas que tu vas t'en sortir, que tout ira bien. Le vrai chemin, c'est repens-toi. Reviens à ce Dieu. Sévère, peut-être qui t'impressionne. C'est le Dieu exalté, qui contrôle tout l'univers et ta vie, qui voit au fond de ton cœur. Ça peut faire peur, mais c'est aussi le Dieu bon qui veut se porter volontaire pour une grève de cœur, qui veut être le donneur pour ton plus grand problème, pour guérir cette maladie du cœur. Approche-toi, repens-toi, apprends à connaître ce Dieu qui est le juste juge et qui est aussi un Dieu plein d'affection. Celui qui offre un vrai nouveau départ. Tu te demandes, est-ce que Dieu aime vraiment comme ça? Écoute ces paroles encore de Jérémie. J'entends clairement Éphraïm, c'est-à-dire le peuple d'Israël, on va dire, se lamenter. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger. C'était pas facile. Il dit, pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé, donc il rue dans les brancards. Fais-moi revenir et je reviendrai. « Car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. » C'est le signe à l'époque de vraiment l'humiliation, de dire je regrette. « Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. » C'est ce que le peuple d'Israël est en train de dire à Dieu. Et écoutez comment Dieu réagit. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri? Dieu entend ça et dit, mais c'est mon fils chéri qui me parle. Un enfant qui fait mon plaisir. Pour que chaque fois que je parle contre lui, son souvenir reste si fort en moi. C'est Dieu qui parle en voyant son peuple. C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui. Déclare l'Éternel. Approche-toi. Repends-toi. Reviens à Dieu qui a compassion, qui frémit dans ses entrailles quand quelqu'un fait appel à lui. Et réjouis-toi, car il est un Dieu prêt à pardonner. Imagine s'il prend tellement au sérieux le péché. En contraste alors, quelle grâce! Quand il dit qu'il veut aussi donner un cœur nouveau, une nouvelle vie. Et peut-être pour d'autres, vous avez déjà fait cette repentance, vous êtes déjà revenu au Seigneur, vous avez déjà commencé à vivre. Est-ce que tu apprécies ce cadeau? Est-ce que tu apprécies ce nouveau cœur que tu as reçu? Imaginez, vous étiez à deux doigts de mourir, quelqu'un vous donne un cœur, vous avez une greffe, et puis après vous passez toutes vos journées dans le salon à grignoter des chips en regardant des débilités à la télé. C'est pas la vie, ça. C'est rien faire de ce cœur nouveau que tu as reçu. Fais un jogging, cours. Va, rends-toi utile pour d'autres, tu vois. Ça, c'est la vie. Chante, danse. Réjouis-toi. Apprécie-tu ce cœur nouveau. Le désires-tu. Les Éphésiens avaient perdu leur premier amour. C'était aussi une question de cœur. Ils avaient reçu ce cœur nouveau, mais ils battaient plus aussi fort, aussi vite pour Dieu que dans le premier jour. Réfléchis encore, si Dieu prend tellement au sérieux le péché, quelle assurance s'il dit qu'on peut être pardonné? Quelle libération! Plus besoin de toujours être dans la crainte, n'est-ce pas? On peut servir Dieu librement. Ça donne des forces, comme le cœur qui pompe le sang dans tous les domaines de notre vie, et nos muscles fonctionnent, et nos muscles reçoivent l'oxygène et tout ce qu'ils ont besoin pour aller de l'avant. Ça donne du pouvoir de vivre pour Dieu. Alors on peut être comme en exil pour un temps sur cette terre, pour un temps encore peut-être dans des circonstances difficiles. Jérémie a été persécuté, c'était pas simple pour lui de vivre dans ce temps de l'exil. Jean a mentionné, on va recevoir dans ce temps-ci des maisons, enfin plein de bénédictions d'appartenir à Dieu, et la persécution, et dans la vie éternelle, et dans la suite la vie éternelle. C'est la même chose pour nous, n'est-ce pas? On est en train de vivre dans un monde qui rejette Dieu, tout en étant nous-mêmes guéris, en train de vouloir vivre pour Dieu. Mais si je suis en paix avec Dieu, peu importe ces quelques années difficiles, mon avenir éternel, au-delà de cet exil, est assuré. 70 ans, c'est peut-être le temps d'une vie humaine. Peut-être qu'on ne verra pas de nos yeux le retour du Seigneur dans le temps présent. Mais peu importe, on s'endormira peut-être dans la mort, mais Dieu a promis, il y aura un retour d'exil, le jour dernier, le jour du retour du Seigneur, où il nous emmènera avec lui pour entrer dans la nouvelle création, comme il nous l'a promis. Mon avenir éternel, au-delà de cet exil assuré, je rentrerai dans le pays promis. Que faire en attendant? Regardez au chapitre 32, juste après, Dieu dit à Jérémie, va, il y a quelqu'un qui va venir te proposer d'acheter un champ. Achète un champ. Dans un an, les Babyloniens vont rentrer dans Jérusalem, il n'y aura plus peuple d'Israël dans sa terre. Mais Dieu dit, achète un champ. Parce qu'au-delà de cet exil, tu auras une propriété là. Tu auras un héritage. C'est ce que Jérémie fait. Verset 8. Effectivement, Anaméel, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anatoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Anaméel, le fils de mon oncle, qui est à Anatoth. Je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. Dieu nous dit aussi, pour nous qui sommes après Jérémie, avec la promesse maintenant ratifiée en Jésus, mais toujours pas rentrer à la maison, toujours dans une sorte d'exil, mais en train de revenir en bonne route. Il nous dit aussi d'investir pour le royaume. Vous vous rappelez ces paroles de Jésus? Il ne nous dit pas d'attendre dans la crainte. Non, il dit investis, vis déjà maintenant pour le royaume à venir, là où la rouille ne peut pas prendre, là où les voleurs ne peuvent pas venir te dérober. Investis pour ton héritage à venir. De la même manière que Jérémie investit en achetant une propriété, alors que les troupes babyloniennes sont à la porte, que c'est la fin d'un monde, on va dire, que Jérémie n'en profitera peut-être pas tout de suite, de même Jésus nous appelle à investir dans le royaume, parce que nous aurons part aussi dans la terre promise, et personne ne pourra nous enlever. Que Dieu nous encourage avec ses paroles, avec cette promesse. Non seulement cette promesse, mais aussi avec un cran supplémentaire, sachant qu'elle a été ratifiée maintenant, signée du sang même de Jésus sur la croix. Prions. Seigneur, guéris-nous et nous serons guéris. Merci pour toutes les personnes qui ont fait cette prière et qui t'ont vu à l'œuvre dans leur cœur pour ôter le cœur mauvais et recevoir de ta part un cœur nouveau, comme tu l'avais promis. Seigneur, merci pour toutes les personnes ici présentes ce matin qui n'ont pas encore fait cette démarche, mais qui sont là, qui ont entendu. Et je prie pour eux. Guéris-les, s'il te plaît, et ils seront sauvés. Je t'en prie au nom de Jésus.